Bonjour à toutes et à tous, les chroniques financières sur CFM Rhodes, c'est avec Steve Bono. Bonjour Steve.
Bonjour David.
On le rappelle, Steve, banquier à Rhodes.
On va dire ex-banquier.
Voilà,
ex-conseiller financier.
Voilà, actuellement conseiller financier. Et Steve, tu étais trader à travers la planète, Monaco, Dubaï, pendant de longues années, je le rappelle.
Presque 20 ans, enfin un peu plus de 20 ans.
Le temps passe vite.
Oui.
J'imagine. Bon, tu continues d'exercer ce métier, enfin en tout cas plutôt le conseiller en investissement ici à Rhodes et ici à Finance.
Hein. C'est ça.
Très bien. Alors, on est en période de fête là, tout le monde recherche un petit peu des cadeaux comme tous les ans et certains se sont peut-être vus offrir l'année dernière des bitcoins comme cadeau de Noël. Eh, c'était peut-être pas un cadeau. On va parler de crypto-monnaie.
À voir.
On va parler de crypto-monnaie aujourd'hui avec toi dans les chroniques financières. Steve, ouais, c'est vrai que les crypto-monnaies, Bitcoin, la plus connue des crypto-monnaies, ça peut apparaître comme un investissement. Ça apparaît souvent d'ailleurs comme un investissement.
Mais je me pose la question en fait. C'est vrai que l'actualité est un petit peu brûlante
oui.
De ce point de vue-là.
On va en parler.
Ben oui, et en fait, je me posais la question, très bien, ok, c'est intéressant comme concept, mais en fait, à quoi ça sert? Je me disais, si moi j'étais un investisseur et que je voulais vraiment investir dans des produits financiers, on va dire, je me poserais quand même la question de savoir déjà pourquoi je le fais.
Oui.
On en avait parlé, si tu te souviens bien, dans des émissions précédentes.
À retrouver en podcast sur cfmradio.fr.
Mais c'est important, en fait, c'est très important. Et en fait, une des raisons principales pour laquelle les gens investissent, c'est qu'ils veulent conserver de la valeur pour plus tard.
À minima.
Donc, voilà, c'est un peu une différer une consommation immédiate et la renvoyer dans le futur. Mmh. Et donc, c'est ça un petit peu la base de l'investissement aussi, à savoir, donc, on va conserver de la valeur. Il faut trouver un support pour, quelque part, transporter cette valeur dans le futur.
Voilà, et puis mettre l'argent sous le matelas, ça se fait plus.
Alors, de ce point de vue-là, je me disais, ok, mais est-ce que des cryptos comme le Bitcoin ou autre parviennent à faire ça, à remplir cette fonction? Et je me dis, mais ok, attends un petit peu. Quand on regarde ce qui se passe, par exemple, avec des monnaies classiques, on dit, il y a quand même, quelque part, une certaine, on va dire, valeur économique, parce qu'elles sont adossées à une activité de production économique. L'euro est adossé à tout ce qui s'est produit dans la zone euro, donc on peut échanger, c'est lié à quelque chose de, on va dire, tangible. Pareil pour le dollar, pareil pour les autres grandes devises.
Oui, c'est-à-dire qu'un billet de banque, un billet de quelle que soit la valeur en euros, représente quelque part un pourcentage de l'usine d'à côté.
Exactement,
du port, des infrastructures qui existent quelque part.
Ouais. Donc, alors, je me disais, le bitcoin ou toutes ces cryptos, ok. Quel est le support? À quoi c'est lié? À quoi c'est rattaché pour essayer d'ancrer un petit peu la valeur de la chose? Et c'est très difficile, en fait, à répondre à la question, parce que je pense qu'il faut déjà véritablement avoir une connaissance approfondie de toutes les technologies, et en particulier de la blockchain, qui est la technologie qui sous-tend, en fait, toutes ces cryptos. C'est quand même pas évident, c'est pas simple. Parce que même si on dit, ok, je comprends ce qui se passe dans la blockchain, je comprends l'intérêt technique, je comprends la technologie, etc. Mais quel est le lien avec la valeur aussi? Comment est-ce que cette technologie de blockchain va se développer ou va accroître en valeur?
Et la valeur, elle peut être associée à l'utilisation, l'utilité que ça a?
Potentiellement, mais qu'est-ce qu'on crée? Je veux dire, une activité économique, une activité industrielle ou de service, ça crée quelque chose. Ça crée un service, ça crée un bien. Il y a des activités de transformation. Donc là, on a véritablement un processus de création de valeur.
Mais alors, je pourrais te dire vite fait que ces crypto-monnaies ont notamment créé plein de plateformes d'échange de crypto-monnaies. Il y a plein d'emplois qui sont créés. C'est déjà pas mal, mais c'est peut-être pas assez.
Ben, je sais pas. En fait, si tu veux... oui, il y a certainement plein d'emplois qui sont créés, mais on a vu il n'y a pas très longtemps qu'il y a aussi plein de catastrophes qui sont créées. Mmh. Et voilà. Et donc, je me dis en réalité, bon, mais c'est très, très délicat en fait, parce que il y a un attrait, il y a un phénomène de mode. Moi, ça me fait penser à un phénomène de bulle, très honnêtement. Et en fait, en venant, je me suis dit, tiens, mais ça me rappelle mes leçons d'histoire quand on parlait des assignats.
Ah, avant la Révolution française.
Oui, voilà. C'était les premiers billets, en fait. Et je me suis dit, mais tiens, les assignats, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que leur valeur a chuté parce que les gens se disaient, mais on ne peut plus le convertir, ou il n'y a plus... cette facilité de le convertir en bien,
en argent,
en espèces sonnantes et trébuchantes. Et quand on regarde ce qui s'est passé sur les cryptos, il y a certaines cryptos qui ont été adossées donc à des devises en dur, comme le dollar. Mais c'est pas pour autant que les gens ont eu beaucoup plus confiance dans ces cryptos-là. Donc c'est vraiment un problème qui est fondamentalement délicat.
Mais en même temps, j'ai envie de... D'accord, mais comme moyen d'investissement, bon, en ce moment, j'en sais rien. Mais pareil, des gens qui ont acheté au tout début, qui étaient à fond dans les technologies pour s'amuser, tiens, allez, je vais en prendre 5 des bitcoins, il y a 10 ans, ça valait 1 euro. Même encore aujourd'hui, à 15 000 euros le machin, ils ont fait, c'était un bon investissement.
Mais si tu veux, c'est un petit peu le phénomène des bulles. C'est ça, tu prends la bulle au départ... elle t'amène vraiment le plus haut possible. Là, la bulle s'est dégonflée. On n'est pas encore en état de catastrophe, parce que comme tu le dis, ça vaut quand même maintenant, je crois, je regardais ce matin, entre presque 17 000 dollars. Donc ça tient encore un petit peu. Mais de ce que je peux voir en réalité, est-ce que pour le coup, j'achèterais maintenant une crypto? Probablement pas. À moins que je veuille m'amuser à faire du trading.
D'accord. Alors du trading, on rappelle... que c'est de l'investissement, mais sur du très, très court terme.
C'est ça. Ouais. Donc là, on prend des positions, en fait, à court terme, en fonction des mouvements de marché qui sont eux aussi très courts. Là, oui, parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Donc, c'est intéressant. De ce point de vue-là, c'est un support.
Ça peut gagner 10% dans une journée, comme on perd 10%, alors que, je sais pas, des grandes sociétés françaises Air Liquide, c'est rare que ça perde ou que ça gagne 20% dans la journée.
Exactement. Ah, okay. Non, mais c'est ça. Tu as parfaitement résumé la situation. Et donc, de ce point de vue-là, d'accord, c'est intéressant. Mais là, on ne parle pas d'investissement. Là, on ne parle pas de déférer une consommation à 5-10 ans. Parce que voilà, je serais bien incapable, moi, aujourd'hui, de répondre à un client qui me dit bah, « Tiens, moi, je veux un portefeuille de crypto parce que j'ai envie d'épargner ou j'ai envie d'investir sur le moyen-long terme. »
D'accord.
Ça me paraît compliqué.
Et alors, il y a quelques semaines, à l'occasion d'une émission précédente, les chroniques financières sur CFM Rhodes, tu nous disais que dans ton portefeuille d'investissement, on misait sur des secteurs d'activité qu'on estimait être porteurs pour l'avenir, la robotique, l'espace.
L'espace, l'économie bleue, tout ce qui est les problématiques associées à l'eau.
Voilà. Bon, là aussi, il y a un petit pari, parce que qui sait si c'est crypto-monnaie, que pour l'instant, on ne sait pas bien, on ne comprend pas à quoi c'est adossé, comment ça fonctionne. Si ça se trouve, ça sera un de ces secteurs.
Non, ah mais potentiellement, ça fait partie quand même, parce qu'il y a un secteur en particulier qu'on suit de très près, c'est tout ce qui est la digitalisation de l'économie.
Ouais.
Donc là, je veux dire, là, c'est évident, bon, on en parlait tout à l'heure, hein, il y a un vrai impact sur la société, sur les manières de travailler. Ben, prenons par exemple le télétravail. Ah, c'est génial quand même.
Oui.
Ça offre
pas
des possibilités.
Pas pour tout le monde, mais oui.
Oui.
Une possibilité supplémentaire en tout cas.
Bah, je suis le premier à en bénéficier quelque part, parce que les facilités de communication aujourd'hui te permettent d'atteindre un petit peu n'importe qui sur la planète.
Voilà, toi en Aveyron, t'es pas gêné pour parler quelqu'un à Londres, à New York ou à Dubaï.
Exactement.
Bah, oui.
Donc c'est génial.
Bah,
ça,
oui.
De ce côté-là, c'est super. Donc la digitalisation, les cryptos, on s'y intéresse fatalement. Sauf que il manque encore, on est toujours au stade où on se dit, mais à quoi ça sert finalement?
Et toi, tu sais pas non plus.
Moi, je me pose des questions. Je m'interroge. Je dis, est-ce que ça permettrait, par exemple, d'avoir une sorte de couche au-dessus de tous les pays? Parce que, par exemple, aujourd'hui, si je veux acheter des biens en euros, je paye en euros. Si je veux acheter des biens quand je suis aux États-Unis, je dois payer en dollars. Est-ce que ça permettrait d'avoir une couche monétaire
internationale,
qui soit au-dessus de tout ça?
Ok.
Sauf que, effectivement, comme ce sont des environnements complètement décentralisés et sans régulateur, il n'y a pas non plus de politique monétaire. Encore une fois, on revient sur cet aspect de valeur. Comment est-ce qu'on va valoriser une monnaie virtuelle comme ça, qui est adossée à rien en particulier et à tout?
Mais alors, dans un autre domaine, est-ce qu'il n'y a pas un peu les mêmes choses? Et pourtant, des gens investissent là-dedans, dans l'art, par exemple. Un tableau, qui que ce soit, c'est adossé à rien. Avoir éventuellement une réputation, un nom, donc là, d'accord. Mais d'autres fois, on peut investir sur un artiste, allez, on le sent bien, c'est un artiste quand même, et puis peut-être que dans 20 ans, ça vaudra 100 fois son prix.
Oui, mais alors après, moi, je ne suis pas un spécialiste du marché de l'art, mais j'imagine qu'il y a quand même bien moins de volatilité sur les œuvres d'art que sur des cryptos comme le Bitcoin.
Alors, en tout cas, pas au jour le jour.
Oui, exactement. Donc, il y a quand même, en fait, des tendances de long terme ou solides, on va dire, sur le marché de l'art qu'on a beaucoup de mal à retrouver sur ce qui se passe dans les cryptos. Après, encore une fois, c'est un segment intéressant. Je pense que il faut, ça vaut le coup de s'y intéresser.
Ouais.
Mais il y a quand même des questions fondamentales qui demandent à être, qui doivent être éclairées, quoi. Moi, il y a des choses que je sais pas, que j'ignore. Investir là-dessus, ça demande quand même, à mon sens, d'avoir fait ses devoirs. Regarder, par exemple, comment ça marche, la technologie blockchain.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est si révolutionnaire, après tout? Qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans cette technologie?
Apparemment, c'est le cryptage, la sécurisation complète des données, une décentralisation qui fait que n'importe quel maillon, s'il n'est pas là, ça passe quand même.
Non, mais d'accord. Alors ça, c'est oui, très bien, c'est super. Mais par contre, il y a aussi des choses qui sont à revoir. Parce que paraît-il, et encore une fois, je mets ça entre guillemets, le fait de miner, comme on dit, des bitcoins, c'est-à-dire de créer des choses, c'est énormément consommateur d'énergie.
Ah oui, oui, oui.
Et là, on est quand même dans des problématiques où on se rend compte que il y a quelque chose à faire. Il faut réfléchir à ces choses. Est-ce que ça fait partie? Alors là, je déborde un petit peu du cadre des cryptos et je mets un pied sur le thème de la prochaine émission. Quand on regarde toutes les problématiques d'environnement, est-ce que c'est pas contradictoire de se dire je vais investir à la fois en crypto et dans des choses qui sont positives pour l'environnement? Je sais pas, je me pose la question.
D'accord. Et donc, toi, là-dessus, tu regardes, ça t'intéresse parce que c'est quelque chose qui émerge, qui est très présent et dont on parle beaucoup. Et puis, qui représente aussi un certain nombre de masses d'argent échangées.
Mais exactement.
Dans le monde, oui. De plus en plus, hein, c'est des masses assez énormes. Mais tu mets pas le doigt dedans.
Ben, c'est pas que je mets pas le doigt dedans. Alors, ça m'intéresse encore une fois parce que ça fait partie de ce que j'appelle la digitalisation de l'économie.
Ouais.
Donc, il faut que je m'y intéresse. Mmh. C'est un secteur d'avenir de toute évidence. Mais je creuse encore à savoir, et c'est effectivement essayer de trouver une utilité, quelque chose qui soit vraiment spécifique.
Ah ouais, parce que sur l'utilité, j'allais te dire, moyen de paiement, c'est comme la carte bleue. À la limite, il y avait des billets avant, c'est un moyen de paiement supplémentaire et ça a très bien marché, les cartes bleues.
Oui, sauf que là, en l'occurrence, tu peux pas payer tout et n'importe quoi avec des cryptos ou avec des bitcoins.
En France. Il y a des pays où, enfin, paraît-il, peut-être qu'ils sont calmés là. Mais il y a
je
des
pense
pays...
qu'ils se sont calmés.
Ouais, je pense aussi, ouais. Mais il y a des pays, des petits pays avec des petites monnaies, entourés de plein d'autres pays avec d'autres monnaies. Ils se sont dit, allez, on continue avec d'autres monnaies, puis on va décider que le bitcoin est aussi la monnaie acceptée dans l'ensemble du pays.
Oui, mais je crois qu'ils en sont revenus un petit peu.
Oui, je crois qu'ils en sont un peu calmés.
Et puis, je veux dire, ok, pour le bitcoin, mais des cryptocurrencies, il y en a plein.
Ah oui, et oui.
Et donc, c'est lesquels que tu prends C'est très difficile, en fait, de répondre à une question d'un client là-dessus, parce que c'est vraiment une classe d'actifs un peu à part entière. C'est très neuf, très bien. Moi, j'ai rien contre la nouveauté, tant mieux.
Oui.
Tant mieux. Mais il manque encore quelque chose.
Mais alors, comment t'expliques qu'il y ait autant de gens qui soient précipités? Alors, il y a un phénomène de mode, mais enfin, il n'y a, a pas que des victimes de la mode qui achètent des bitcoins ou des crypto-monnaies, et qui ont décidé d'investir là-dedans, alors qu'ils ne sont pas plus forcément informés que toi. Dans le métier où tu te dis non, moi là-dedans je vais pas y aller pour investir, à la limite c'est pour
non, mais il y a de toute façon, et c'est sûr et certain, il faut bien se rappeler quelque chose, c'est que le décollage en fait du Bitcoin, ça a coïncidé aussi avec une énorme émission monétaire de la part des banques centrales suite à la crise de 2008.
Oui.
Et cet argent, il a dû trouver une place.
D'accord.
Ça, c'est, voilà.
Il fallait qu'il aille quelque part. Et il y en a un qui a dit, j'ai inventé une monnaie électronique, c'est super. Et tout le monde s'est dit, bah ouais, tiens, pourquoi pas?
Pourquoi pas?
J'en achète.
Et quand on regarde, en fait, les graphes d'évolution des cours du Bitcoin ou des autres cryptos, mais ça a flambé, justement, suite à ça. Parce que je pense qu'il y a effectivement une partie de la demande qui a été alimentée par ces liquidités excessives et qui s'est retrouvée, en fait, dans les cryptos. Avec adossé à effectivement une sorte de nouveauté technologique, une technologie qui existe et qui est la blockchain, qui est certainement très très bien, et résultat des courses, on a eu ce phénomène de bulle.
Alors un petit mot justement sur l'actu là, des derniers jours, des dernières semaines. Bon oui, effectivement le Bitcoin, il est monté à 60 000 euros il y a un an.
$65,000.
$65,000, merci. Ouais. Bon là il est à 17 000, tu nous disais aujourd'hui. Bon ça, on est sur une très très forte chute sur un an. Bon, mais on resserre un petit peu l'agenda. Ces dernières semaines, on entend parler, pour ceux qui suivent un petit peu ces sujets-là, de plateformes qui font faillite, de dirigeants très jeunes, de ces entreprises qu'on ne sait pas où ils sont et eux-mêmes ils ne savent pas où ils sont leurs sous, ils ne comprennent pas trop bien ce qui se passe.
Ah ben l'argent, on sait où il est, ils en sont servis pour acheter des biens immobiliers en voiture. Voilà. D'ailleurs, c'est très curieux parce que ce sont des gens qui travaillent sur des plateformes de crypto et qui achètent des biens tout ce qui est plus classique.
Oui, ils sont pas si fous que ça. Mais derrière tout ça, tu penses que bon, bah, c'est un accident, voire une escroquerie comme il peut y en avoir dans tous les domaines, ou que ça peut avoir des conséquences sur la monnaie elle-même. Parce que par exemple, c'est pas parce qu'une banque ferme ou fait faillite que des gens vont arrêter d'utiliser des banques pour leurs transactions, mettre leur argent, etc.
Oui, mais contrairement à ce qui se passe sur la crypto, sur des monnaies classiques, ouais. Il y a des gouvernements, il y a des banques centrales derrière.
Ouais.
Il y a une institution,
ouais.
Quelque chose qui garantit quelque part la convertibilité et l'usage des devises.
Ouais.
Ce n'est pas le cas dans la crypto.
Et, non, et tu connais, parce que moi je connais personnellement des personnes qui ont investi un peu de sous hein, dans les bitcoins sur des plateformes, et puis là, depuis quelques temps, ils n'arrivent pas à récupérer leurs sous.
Mais c'est normal,
ouais.
Parce que c'est un petit peu le problème.
Ouais.
Je veux dire, passer un moment... T'achètes un crypto en tout début que ça vaut allez, 1 dollar.
Ouais.
Ça valait 65 000 dollars. Donc, quand tu vends ton bitcoin, par exemple, il faut que la plateforme qui t'a vendu le puisse être en capacité
de te redonner 65 000
dollars. Ouais, ouais. Alors que tu as acheté le truc pour 1 dollar.
Donc, voilà, il y a quelques années, tu l'auras acheté à eux-mêmes.
Oui. Et donc, il y a tous des problèmes de gouvernance. Mmh. Effectivement, ce sont des plateformes qui sont très jeunes. Il manque cette maturité dans la gouvernance de la plateforme.
Ouais. Alors qu'en plus, c'est le principe, justement, parce que c'est derrière l'idéologie, c'est justement pas quelque chose de pyramidal ou de vertical, mais plutôt d'horizontal.
C'est ça. Et donc, en fait, c'est très étonnant. Enfin, quelque part, c'est pas normal, mais c'est pas très... Comment dirais-je ? Quand on regarde ce qui se passe, comment ces plateformes sont gérées, grosso modo, je pense qu'il y a effectivement un aveuglement dû à la technologie et puis à cet effet bulle.
Mmh.
Mais la personne maintenant qui a repris les rênes donc de cette fameuse plateforme qui s'est effondrée et qui est la personne qui avait fait la même chose suite au scandale d'Enron, je ne sais pas si tu te rappelles.
Oui, depuis le milieu des années 2000.
Ouais,
grande compagnie d'électricité américaine.
Exactement, c'est un très gros groupe broker d'énergie.
Énorme. Ouais. Ouais.
Et c'était une escroquerie sans nom.
Monumentale.
Mais cette personne a déclaré, donc dans son rapport à la SEC, elle disait « j'ai jamais vu ça ».
Ah ouais, d'accord.
Donc quand t'as quelqu'un du calibre de cette personne qui a été embauchée, grosso modo, pour nettoyer le bazar à Enron,
sauver les meubles,
et qui te dit « j'ai jamais vu ça
»,
t'as une petite idée, en fait, de l'étendue des dégâts.
Ouais, et puis, c'est pas rassurant pour ceux qui en ont encore.
Et non, absolument. Parce que dans ce genre de choses, c'est la confiance qui est primordiale.
Eh oui, comme dans toute monnaie.
Comme dans toute monnaie. Mais en l'occurrence, là où t'as rien derrière en termes d'actifs tangibles ou réels ou d'une activité économique, plus qu'encore dans toutes les autres monnaies, je pense que c'est la confiance qui est fondamentale. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Binance a mis sur pied un fonds justement pour dire aux clients potentiels, nous, on est quelque part un petit peu plus safe, donc plus sécurisant, et on a mis des vrais actifs dans un fonds qui va servir à garantir quelque part.
Alors, Binance, c'est une société, et donc, je veux dire qu'ils ont des immeubles, des voitures, de tout ce que tu veux, des parts d'entreprise pour retraduire l'argent, en vrai argent,
en cas de besoin. Je pense qu'ils ont fait un petit peu la même chose que... ce qui se passe en fait au niveau du système bancaire, c'est-à-dire que dans les banques, tu as un fonds de garantie des dépôts, et si une banque fait faillite, toi en tant que déposant, tu es couvert par ce fonds-là.
D'accord.
Et je pense que Binance a mis sur pied quelque chose d'équivalent, à une moindre mesure évidemment, mais le fonds, il est abondé par des dollars, quoi.
Ouais,
Donc, mais alors, pas par des cryptos.
Ah, d'accord, ouais. Parce que j'allais te dire, abonder le fonds, si le truc il passe de 1 à 60 000, il faut en remettre souvent dans le fonds pour que ça suive. Là, c'est pas évident. Bon, donc le bitcoin et les crypto-monnaies, comme on dit, c'est peut-être l'avenir.
C'est ça, mais... affaire à suivre, j'ai envie de te dire. C'est quelque chose, il faut garder un œil dessus, il faut s'y intéresser, mais c'est compliqué.
D'accord, donc pour Noël, t'en offriras pas à des amis, peut-être à des ennemis.
Peut-être. À voir.
Merci beaucoup, Steve.
Merci, David.
On se retrouve la semaine prochaine pour les chroniques financières. Et ce coup-ci, on va s'intéresser à l'économie verte, bleue, je ne sais plus.
Oui, on va s'intéresser au phénomène ESG. Donc, tout ce qui concerne l'environnement, les responsabilités sociétales et la gouvernance des entreprises.
Ah, là, il y a du solide derrière.
Ah oui, là, il y a des choses à dire. Oui.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine,
À la semaine prochaine, David.